Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout premier antipode de la lutte extra.
On l'appelle les antipodes extra grâce à Fred.
Les antipodes extra,
qui a trouvé le nom.
Ah, c'est merveilleux. Yeah!
Comme Fred, tu mérites un standing ovation, là, parce qu'on cherchait longtemps.
Et pour cette première, Kev, des antipodes extra, on a demandé à Nelson C, qui a été notre champion, le gars qui nous a supporté pour qu'on ait un podcast par semaine. On lui a demandé, donne-nous un pay-per-view du passé. On va l'écouter et on va en faire une revue ici à l'émission. Et Nelson nous a choisi Royal Rumble 94.
Et j'en profite pour encourager les gens. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut nous proposer un pay-per-view. Donc, lorsqu'on va partager ça sur Twitter,
écrivez-nous. Un pay-per-view ou un Raw,
ouais, un SmackDown. Ou un Nitro, WCW.
Ou un Nitro.
ECW.
Absolument.
Moi, j'écoute pas... J'écouterai pas le lutte Grand Prix, là.
Hey!
C'est pas vrai. Hey! Je vais l'écouter s'il faut. Je vais l'écouter s'il faut. Mais les commentateurs pour la soirée, Royal Rumble, 22 janvier 1994, à Providence, au Civic Center, les commentateurs étaient Vince McMahon et Ted DiBiase. Il y avait 3 matchs de championnat. Avant de commencer, Pat, est-ce que tu te rappelles de ce pay-per-view-là? Est-ce que tu te rappelles que t'étais où? Mets-nous en contexte.
Zéro pinball.
Ah ouais,
94, c'est l'époque où j'ai comme été un peu moins intéressé par la lutte. 93-94, les storylines à WWF, c'était mauvais, c'était très, très cartoon, très, ouais, très dessin animé. Et pour vrai, je me rappelle, Hulk Hogan a signé avec la WCW en 94. Ouais. Et j'en avais... non, mais j'avais pas suivi ça. J'en avais entendu par la bande. Et c'est un de mes amis, parce que j'étais au cégep à ce moment-là. Donc, toi, t'avais 2 ans.
2 ans, baby.
Mais j'étais au cégep, c'est un de mes amis qui m'a dit « Ah ouais, j'ai écouté ça. Ça jouait à CFCF à 5h le samedi, WCW. » Puis il dit « Ouais, Hogan est rendu là. » Ah ouais! » Tu sais, j'avais comme plus ou moins suivi. Ouais. Là, je suivais par les magazines. Fait, j'avais les nouvelles un peu en retard. L'Internet commençait à peine. Bref. Fait que, ouais, non, c'est, j'ai pas vraiment de souvenirs. Ceci dit, t'as parlé de Providence, tout ça. C'était le 22 janvier 1994. Sans regarder sur un agenda, rien. Quelle journée de la semaine était le 22 janvier 1994? C'était un pay-per-view Royal Rumble. Quelle journée c'était?
C'était un samedi, non?
C'était un samedi. Ah. C'était un samedi. Les pay-per-views dans ce temps-là, là, c'était pas les dimanches. 94, c'est la dernière année où il y a eu des pay-per-views autres qu'un dimanche. Plus que ça, les Rumbles, c'était les samedis. SummerSlam, c'était toujours des lundis.
Ah,
Survivor Series, c'était le jeudi parce que c'était la journée de l'Action de grâce, Thanksgiving aux États-Unis. T'avais juste WrestleMania qui était les dimanches. Et là, à partir de 95, ils ont commencé à avoir un peu plus de pay-per-view. Et là, tous les pay-per-view sont tombés les dimanches. Et aujourd'hui, on verrait plus ça. Tu verrais-tu Vince faire un Royal Rumble un samedi?
Tu verrais-tu un SummerSlam lundi?
Non, encore moins. Mais un samedi, ça demeure quand même pas une vilaine soirée pour écouter de la lutte.
Moi, personnellement, ma relation avec pay-per-view-là, c'est un pay-per-view que, quand Nelson a dit d'aller regarder, j'étais comme, ah, tu sais, moi, Royal Rumble 94, là, pour faire quoi, là?
Ouais.
Mais j'ai lu un peu les matchs qu'il allait avoir et à chaque fois que Owen Hart est sur une carte, moi, je te le dis, je regarde. Puis, je vous dis, on va passer du temps sur Owen ici. Mais avant Owen, il y avait le match Tatanka face à Bam Bam Bigelow accompagné de Luna Vachon. C'est Ludwig Borga qui devait affronter Bam Bam, mais il s'est gravement blessé et on n'a plus jamais.
Il s'est blessé à la cheville.
Ouais, et on n'a plus jamais revu Ludwig à la WWE après.
Écoute, Danny Davis était l'arbitre qui avait fait un arbitre heel dans les années 80 avec la Hart Foundation.
C'est vrai.
Et moi, ce qui m'a marqué dans ce match-là, c'est premièrement,
est over as shit, ça n'a aucun sens.
Ben oui, et de voir à quel point les gens réagissent à des high spots qui réagiraient plus aujourd'hui. Tu sais, un drop kick, tu sais, faut que ça soit un maudit beau drop kick maintenant. Tu sais, le drop kick d'Okada, les gens vont réagir, mais là, un drop kick, j'ai comme fait, oh wow, ok, t'sais, on était à une autre époque.
Yo, les gens réagissaient à des clotheslines.
Oui, oh, oui, ben c'était les high spots du temps. Ouais. C'était les high spots du temps. Bam Bam Bigelow, très agile, un moonsault. Je veux dire, c'est un gars, un gros gaillard, là, ouais. C'est un gars de 6 pieds, 300 livres. Il faisait des moonsaults, il était très agile dans l'arène. Fait que ça, j'aimais comment le match était aussi monté très old school.
Ouais.
Tu sais, des high spots au début, des high spots à la fin. Dans le milieu, c'était plus slow avec des ce qu'on appelle en anglais des rest holds, tu sais, des prises. C'est une prise de tête au sol pour laisser, tu sais, le temps au monde.
Du storytelling. Private Party, ils savent pas c'est quoi, ça.
Non, mais des fois, des rest holds aujourd'hui, tu sais, les gens, ils veulent plus d'action.
C'est Baron Corbin.
Quand ils veulent plus d'action, mais là, dans ce temps-là, ça se faisait une prise de l'ours qu'il y a eu.
Mais c'était long, ça, par exemple.
Oui, c'était long. Mais c'est ça, c'est ce bout-là qui a été long. Luna était dans le coin de Bam Bam Bigelow parce qu'à ce moment-là, la WWF venait tout juste là, de revamper sa division féminine. En décembre 93, Alundra Blaze avait été championne. Puis ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de championne féminine à la WWF. Donc, Luna Vachon était plus souvent valet que lutteuse à ce moment-là. Évidemment, la Québécoise d'adoption, la fille adoptive de Paul Vachon.
Puis Tatanka gagne le match avec un crossbody de la troisième corde. Yes.
Dave Meltzer avait donné au match une étoile et trois quarts.
Impossible. Ah, c'est nice que t'aies les étoiles. Ouais. Moi, j'ai aimé le match, là. Ouais. Au moins 2/5, là.
OK, t'es à 1.75 ou 2.
Mais non, mais dès que tu vois 1, c'est un disrespect, là. Je m'excuse.
Hey, en passant, tu disais tête débiaisée, t'es au commentaire. J'ai une note pour ça. C'est la première fois que débiaisée revenait à la WWF depuis SummerSlam 93. Ah. Il y avait eu des problèmes de couple et il a retourné lutter à All Japan. Il s'est blessé au cou. Puis là, il est revenu à la WWF. Il a plus jamais relutté, là, DiBiase, là, à partir de ce moment.
Moi, je sens que je vais aimer les antipodes extra. Comme en ce moment, je suis déjà hype. On vient de commencer, je suis déjà hype. Maintenant, Owen Hart.
Ouais. Deuxième match, c'était
Owen Hart et Brett face aux Québécois.
Ouais. Écoute, pour les championnats par équipe. Ok, les Québécois étaient champions. Ils ont perdu contre 1-2-3-Kid et Marty Jannetty. Et la semaine avant, ils ont regagné les titres. Donc, ils ont perdu les titres une semaine seulement de temps. Donc là, ils défendent les titres contre les Hart.
Tout part de Survivor Series 93.
Ah, là, tu veux raconter l'histoire.
Ou Owen. Yo, guys, Owen Hart, là, c'est my guy. OK. Owen, c'est le seul des Hart à se faire éliminer au Survivor Series. Il retourne dans le ring, il confronte Bret Hart.
Mais attends, tu dis pas, à Survivor Series, c'était tous les frères. C'était le Hart Family.
Hart Family, exactement. Ouais. Checker les dates parce que ça suit. 11 décembre 93, Owen challenge Bret pour un match pour sortir de l'ombre de son frère. 18 décembre 93, Bret refuse le challenge. Ouais. 1er janvier 94, les deux font une entrevue pour dire qu'ils ont réglé leurs problèmes pendant le temps des fêtes.
Mais oui, c'est le jour de l'an.
Man, yo, excuse-moi, là.
C'est bon.
C'est tellement parfait. Oui. Fait que là, yo, suivez, ça part de Survivor Series, ça part de Thanksgiving. Là.
Ouais.
Là, on est rendu 1er janvier 94, ils ont réglé les problèmes. Là, après ça, ils se disent, nous, on va aller gagner les titres face aux Québécois le 17 janvier au Madison Square Garden. Ça marche pas.
Ça marche pas parce que ils ont perdu. Parce qu'ils ont perdu. C'est ça, ils étaient plus champions.
Ouais. Là, après ça, c'est ça. Là, nous mène à ce match-là. Owen Hart, là.
Ouais.
Tout est subtle. La promo qu'ils ont faite backstage, là, tous les mots qu'ils disaient, c'est mais comment ils regardaient Bret, la petite tape dans le dos. Tu savais qu'il allait faire un heel turn, mais on dirait qu'il y a une partie de toi qui disait « Ouais, mais c'est Owen. Ouais. » Il n'y a pas de turn contre son frère, c'est Owen.
Mais non, son frère a refusé de se battre contre. Oui. Ils ont réglé leurs problèmes.
De nos jours, là, il aurait fait le match en un raw puis le lendemain, l'autre raw après. Là. Il aurait fait le match à SmackDown. Si. Il aurait fait le match à Heat le dimanche matin.
Et Owen, là, dans le ring, là, quel technicien.
Ça a pas
à un moment
bon
donné, je sais pas si t'as remarqué, il a fait un arm drag à PCO. Il est tombé par-dessus pour le tomber. J'ai jamais vu ça. En faisant le arm drag, il a suivi le move. Il est tombé sur PCO pour faire un tombé direct. J'ai comme fait, wow, encore aujourd'hui, ça sera un beau move.
Aucun
ça.
Mouvement perdu dans le ring. Son drop kick, là.
Oh,
c'est un drop kick AJ Styles, là.
Owen était un excellent, excellent lutteur. Hey, qui était dans le coin des Québécois?
C'était...
Johnny Polo. Ouais, Johnny Polo, c'est Raven.
Ah, oh, ouais, j'avais même pas remarqué.
Tu savais pas ça?
Non.
Ben oui, Johnny Polo, c'était Raven.
J'avais même pas remarqué.
C'est devenu Raven. En fait, quand les Québécois se séparent au match de retraite de Jacques, plus tard dans l'année 94, Raven, Polo quitte la WWF. Puis c'est là qu'il propose son personnage de Raven. Et qu'il s'en va à la ECW.
C'est incroyable de voir PCR en 1994 puis de voir qu'est-ce que ce gars-là fait aujourd'hui. Ouais. C'est incroyable. Ouais. L'entrée.
Jacques était, pour vrai, à sa défense, là. Jacques, j'ai beau souvent chialer contre, mais Jacques, dans le ring, il était très, très bon.
Oui, c'était,
agile. C'était un bon heel. Même si c'est PCO qui prenait le plus de ring time, Jacques, là, dans le ring, il était solide.
Oui, mais parce que ça, la note que je me suis mis, les Québécois, c'est les heels, puis c'est les heels qui trichent. De nos jours, les heels, ils trichent plus.
Ouais.
Si t'es un méchant, ta job, c'est de tricher. Tu devrais jamais gagner avec ton finishing move si t'es un méchant. Tu triches.
Tim White était l'arbitre du match. Tim White qui a été pendant longtemps l'accompagnateur du géant ferré d'André the Giant.
Imagine Owen Hart contre Will Ospreay ou Kenny Omega.
Ah.
Je voulais juste le mentionner.
Ouais. Tu sais que Owen Hart, le fils de Kevin Owens s'appelle Owen à cause d'Owen Hart. Et son nom, Kevin Owens, vient aussi un peu de là. Finalement, ce qui arrive dans le match, il envoie Bret Hart à l'extérieur. Les Québécois envoient Bret Hart à l'extérieur. Il fait semblant de se blesser. Il se blesse au genou. La gimmick, c'est qu'il s'est blessé au genou en tombant à l'extérieur. Et là, ne revient plus jamais taguer Owen. Même si Owen demande le tag, lui, il revient pas parce qu'il pense qu'il va être capable de quand même battre les Québécoises. Et là, ce qui arrive, à un moment donné, prise de soumission. Ouais. Et là, il lâche la prise de soumission. Et là, l'arbitre fait comme, non, il est plus capable. C'était vraiment une victoire portée KO. Là. C'était, à ce moment-là, on voyait pas ça souvent, que l'arbitre arrêtait le combat sans qu'il y ait eu vraiment un tap-out, sans qu'il y ait eu un tombé. Et là, Owen est pas content. Puis là, il arrête pas de dire à Brett, hey, pourquoi? T'aurais dû me taguer. Et là, il kick la jambe de Brett. Et là, ce qui est drôle, c'est dans la promo qu'Owen fait plus tard, en arrière-scène, il dit, I kick his leg out of his leg. C'est quoi? T'as quitté sa jambe de sa jambe? Ça faisait aucun sens. Mais c'était drôle. 16 minutes le match.
Puis il a pris son temps.
Ouais.
Il a pris son temps dans le heel turn. La foule buzzait. Puis ils ont dit non, il va pas le faire. Oui, non, il va pas le faire. Il l'a fait. Puis la promo d'après, là, dans le locker room, là.
C'est là qu'il a dit I kick his leg out of his leg. Hey, Dave Meltzer a donné 3 étoiles point 25. C'était le meilleur match de tout le show.
On a vu Raymond Rougeau dans le pull apart.
On a vu Raymond Rougeau, Pat Patterson, Tony Garea, René Goulet, Dave Ebner, Billy Red Lions, dans tout ce monde-là. Raymond qui essayait de faire une entrevue avec Brett. Moi, Brett qui voulait rien savoir. C'était très drôle. Hey, prochain match. IRS, Irvin R. Chyster, qui est le père de Bo Dallas et le père de Bray Wyatt. C'est Mike Rotunda.
Avant, il y a eu un changement de commentateur. Ah. Gorilla Monsoon est venu rejoindre Vince McMahon, puis c'est les commentateurs que j'avais besoin.
Non, c'était pas Gorilla Monsoon et Vince McMahon. C'était Gorilla Monsoon et Jim Ross.
Et Jim Ross, ah ouais?
Ouais, c'était la voix de Jim Ross, qu'on la reconnaît presque pas.
Mais j'étais sûr que c'était la voix de Vince
non,
McMahon.
C'est Jim Ross et Gorilla Monsoon. Les deux faisaient un show qui s'appelait Radio WWF. C'était un show de radio à l'époque. Puis de temps en temps, ils faisaient des commentaires sur un match d'un pay-per-view à leur show de radio.
Je te dis, j'écrivais ça. J'étais sûr que c'était Jim Ross et Vince McMahon.
Non, non.
Mais en tout cas, Gorilla Monsoon comme commentateur, one of the best of all time.
Et avec Jim Ross. Donc, IRS, le père de Bo Dallas, c'est Bray Wyatt contre Razor Ramon pour le titre intercontinental.
Personnage est shit.
IRS.
Yo.
C'était le personnage en équipe avec Ted DiBiase.
Perte de temps,
c'était Money Inc. C'était un percepteur d'impôts IRS, de là les initiales. Et puis, c'est une rivalité là, qui datait d'avant SummerSlam où ce que Money Inc. avait ri de Razor Ramon pour avoir perdu contre le 1-2-3 Kid. Puis ensuite, IRS, il avait volé les chaînes en or de Razor Ramon. Moi, je trouve ça drôle, un percepteur d'impôts qui vole. l'arbitre, c'était Joey Morella. C'était lui, c'était le fils de Gorilla Monsoon, qui malheureusement dans la même année s'est tué dans un accident de voiture. Et là, t'as le match qui coûte 11 minutes de mauvais
wrestling. Razor Ramon, là, il est tellement over, mais je comprends pas.
Ben bon, ouais, mais si c'était pas un match pour le mettre over.
Si c'est pas
là,
son gimmick là, puis de son toothpick, puis de ses épaules qui bougent, puis la petite toune, pop pop.
Puis là, ils ont fini ça whack en plus. C'est comme HBK est arrivé avec une autre belt intercontinentale. Il a frappé Razor Ramon. IRS a fait le pin. On pense qu'IRS a gagné. Earl Hebner arrive et dit non, il y a eu deux belts. Et là, finalement, le match recommence. Il a jamais eu de son cloche. Jamais. Je l'ai réécouté.
Jamais.
La cloche a jamais sonné pour finir le combat et elle a jamais sonné pour commencer le combat. Razor Ramon l'avait en comment t'appelles ça déjà son move là?
Razor's Edge.
Et le match a fini là. Dave Meltzer a donné 1.5 étoiles, j'en aurais pas donné plus.
Yo, moi j'aurais donné 0.5. Bon, le match que je veux parler aussi. Yokozuna face à Undertaker pour le casket match.
Ouais.
Qui à 94 pouvait me dire que le gimmick de Undertaker allait marcher? C'est quoi qu'il faisait, man? Attends, j'ai vu des. Il construisait une tombe ou un cercueil à Yokozuna à Noël. Il y avait des one-liners de morts vivants. Moi, j'ai mis des notes là-dessus. Yokozuna va bien, la part de TQ. Yoko, là, il avait pas de TQ pour vrai. Là. Moi, j'avais pas de TQ parce que Yoko avait pas de TQ.
Ben, en fait, la gimmick, c'est que Yokozuna avait peur des cercueils. On appelle ça de la nécrophobie.
OK. Puis 3 ans après son début, Taker avait déjà un personnage mythique. Là. Tu pouvais le voir. Là, t'as Jim Cornette puis Mr. Fuji qui est avec Yokozuna.
Ouais. Paul Bearer avec Undertaker.
La toune de Yoko, la flûte traversière. Là. J'ai besoin d'un comeback pour quelqu'un. Là. La flûte traversière est parfaite. L'entrée dans Undertaker était déjà bonne. Puis là, le match. Bon.
Le match, là, c'était pas liable, là.
Prendre la gimmick de mort-vivant à la lettre, c'est ça qu'ils ont fait, OK?
Oui.
Si Bray est imbattable, Undertaker, là, et c'est terminé, là. Ce gars-là ne peut jamais perdre, là. Je peux pas croire qu'il a perdu à WrestleMania contre Brock Lesnar après avoir vu ce match-là, OK?
Mais là, le pire, là, vas-y, continue.
OK. So, là, ils se battent un peu, Yoko, Undertaker, et là, ils sont 114 à débarquer pour attaquer Undertaker.
J'ai les noms.
Je les ai notés, là.
Il y a eu Crush.
Il y a eu Kabuki.
Ben, Great Kabuki, là, tu sais qui, Great Kabuki? C'est le premier lutteur au Japon à avoir fait du Green Mist dans les yeux des gens.
Ah, c'est ce qu'il s'appelle les Kabuki
Warriors. Oui, entre autres. Et il a aussi fait des batailles royales récemment dans les Wrestle Kingdom à New Japan.
OK. So, ouais. Kabuki, ouais. Tenryu.
Tenryu, là, c'est un Hall of Famer. Oui, c'est un des meilleurs lutteurs au Japon. Ouais.
Bam Bam Bigelow, qu'on l'a vu perdre contre Tatanka. Crush. Oui. Jeff Jarrett.
Oui.
Wild Samoan.
C'est les Headshrinkers.
Ah, c'est les Headshrinkers, excuse-moi. Oui. Là, après ça, on est 1 contre 9.
Attends. Il y a une autre.
Oui, attends. Là, je veux juste dire, on est 1 contre 9. Là.
Oui.
Après ça, t'as Diesel.
Oui. Ensuite, t'as Adam Bomb. et tout ce monde-là essaye de mettre Undertaker dans le cercueil.
Puis Taker se lève, là. Ils sont 154 dessus. Il se lève, puis il beat up tout le monde. Come back. Paul Heyman est parfait. Il attaque Mr. Fuji puis Jim Cornette. J'ai crié quand j'ai vu ça. La foule est derrière Taker. Chaque comeback. Et là, Taker, il perd finalement le match parce que l'urne.
L'urne a dégagé comme une fumée verte. Et là, c'est comme ça l'enlevait les pouvoirs du Taker. Le Taker, finalement, il tombe dans le cercueil. Yo. C'était le deuxième match de cercueil de l'histoire de la WWF à ce moment-là. Taker avait eu l'autre avant à Survivor Series 92 contre Kamala. Et le tout premier, c'est Dusty Rhodes qui l'avait eu contre Ivan Koloff en 1980. Mais là, attends, c'est pas tout, là. Le match fini.
Il revient!
Il ramène le cercueil. En arrière, il y a un lock là, sur le cercueil, et là tu vois genre une caméra comme qui filme le Taker dans le cercueil, mais le cercueil il a jamais réouvert. Donc je sais pas comment ils ont fait pour avoir la caméra là.
Oui,
là.
Mais c'est Undertaker.
Et là le Taker il dit quelque chose comme ah tu sais je vais revenir. C'est très cartoonish là. Et là à un moment donné il l'évite. Le Taker là, mais tu sais qui? Attends une minute. Tu vois un gars qui vraiment là ils l'ont vraiment levé dans les airs. Ouais. Il est parti dans les airs. Ouais. Et visiblement c'était pas le vrai Undertaker. C'est sûr qui faisait l'Undertaker. C'était Marty Jannetty.
No way! Non,
avec un chapeau puis le manteau. Puis
attends, Marty Jannetty qu'on revoit dans le Royal Rumble après?
Exact. et ça, dans le fond, c'était tout ça là, parce que Taker était blessé au dos et il fallait qu'il prenne du temps off. On l'a pas revu pendant 7 mois et Dave Meltzer a donné 1 étoile au match.
Moi, là, je donnerai 5 sur 5, OK? Chaque comeback de Taker, j'étais dedans. Après ça, Royal Rumble 94, le main event. Bon, oui. Là, ce que j'ai fait, là, OK? Oui. J'ai noté les noms.
Oui.
Puis avec les éliminations, tu sais. Puis après ça, j'ai des statistiques qu'on va passer rapidement, OK?
Oui.
So, c'est Howard Finkel. Moi, j'ai vraiment trippé. OK, si on commence avec Scott Steiner.
Scott Steiner contre Samu.
Ouais.
Samu qui est un ancien champion de lutte internationale ici à Montréal.
Après ça, Rick Steiner arrive. Là, Scott Steiner avec son mullet et son spandex coloré, là, let's go. Rick Steiner, il arrive. C'est clairement le moins bon des deux lutteurs, là, mais le plus over des deux lutteurs. Par la suite, numéro 4, j'ai pas vu c'était qui.
C'est Quang. Quang, c'est Savio Vega.
Savio Vega.
Qui avait un personnage plus, plus guerrier japonais. Il remplaçait Ludwig Borga, le même Ludwig Borga qu'on a parlé tantôt.
Ouais. Owen, numéro 5,
oui.
Sous un tonnerre de huées.
Ah oui, c'est
c'était
fou.
C'était malade.
C'est fou.
Bart Gunn après.
Bart Gunn.
Badass Billy Gunn. Diesel, qui est le Monster Spot. Il élimine tout le monde.
Hey, Diesel, là, il a éliminé 7 personnes consécutives. Il a éliminé Bart Gunn, Scott Steiner, Owen Hart, Quang.
Bob Backlund.
Les trois autres qui sont arrivés après. Bob Backlund, Billy Gunn et Virgil, il les a éliminés. Et à la fin, Diesel est babyface. Là. C'est le début du babyface turn de Diesel. Moi, j'ai adoré quand Virgil est arrivé au numéro 10. ta tête DiBiase qui dit... Where did he come from?
C'est très bon, ça.
J'ai adoré ça.
Virgil est rentré, il est ressorti, il remplaçait Kamala sur cette carte-là.
Exact. Et là, t'as Macho Man, Randy Savage qui arrive, et là, la streak de Diesel arrête.
Là, Macho Man arrive, là, le ring commence à se full. Okay? Fait que t'as Jeff Jarrett, Crush, Doink the Clown, qui a eu un pop, là.
Ouais, Doink, il y avait Ding qui l'accompagnait. Ouais. Ding, c'est Tiger Jackson, un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Bam Bam Bigolo. Mabel.
Ouais. Mabel et la foule. T'as entendu la foule? Ça s'est mis à crier.
Non, c'est quoi
qui criait? There it is.
Ah, pour vrai?
Ah, c'est drôle. Oui, parce que lui et Mo faisaient une gimmick, un peu plus rapper. Rap. Ouais.
Après ça, Sparky Plug.
Sparky Plug, tu sais, c'est qui?
C'est qui, Sparky?
Bob Holly.
Ouais, c'est ça. Ok, je suis comme.
Qui remplaçait 1-2-3 Kick, qui avait un genou à mocher.
Puis, by the way, Sparky Plug, là. Juste qu'il a changé son nom, là.
C'est un gars de tour.
De Charles.
C'est un gars de NASCAR.
Numéro 18, Shawn Michaels. 19, Mo.
Ouais.
Valentine, 20.
Greg Valentine.
Tatanka, 21. The Greg Kabuki, 22. Lex Luger, celui que tout le monde pensait à remporter le Rumble, 23.
Mais attends une minute. Au début du Rumble, ils ont montré là, dans la scène la plus inutile de l'histoire Greg Kabuki et Tenryu qui attaquent Lex Luger.
Ouais, c'est vrai, j'ai pas
Et là, Luger arrive au 23 puis il boite pas. Il y a rien. Il aurait pu ne pas l'attaquer, ça aurait rien changé.
Puis une chose là, que j'ai pas dit, mais j'aime que. Ils l'ont pas fait pour tout le monde, mais j'aime les gens qui sont dans le Rumble, qui cotent la promo pour dire pourquoi ils vont gagner le Rumble.
Oui, oui, oui.
Ça, j'aime ça. Ils devraient le ramener.
Et c'était 90 secondes au lieu de 2 minutes entre les lutteurs parce qu'ils sont arrivés short dans le temps.
24, Tenryu.
Ouais.
25, Bastion Booger.
Non. 25, il n'y a eu personne.
C'est 25, pas Bastion Booger?
Non. 25, il y a eu personne qui est sorti.
C'est ça.
25 personnes est sorti. Et là, t'as Vince McMahon qui dit, bon, ça devait être le spot de Bastion Booger, mais il a pas pu être là, il a trop mangé. Ou, genre, il a fait une joke parce que, tu sais, il était gros, puis il a fait une joke qu'il avait trop mangé.
26, Rick Martel.
Rick Martel,
27, Brett.
Parce que c'est ça, là, Brett arrive, puis...
Sur une jambe. Lui, il boitait pour vrai.
Ah oui, excuse-moi, je me suis trompé. Au 25, Vince, il dit, c'est le spot de Brett. Ça devait être Brett, il pourra pas faire partie du match. Et là, au 27, quand Brett arrive, ils disent, ben, ça devait être Bastion Booger, finalement, le 25, puis ben, il a pas pu être là.
Après ça, Fatou, Marty Jannetty, 29, Undertaker. Et puis, numéro 30, Adam Bomb.
Je fais une parenthèse. Fatou, tu sais, c'est qui Fatou?
C'est
C'est Rikishi. Fatou, c'est Rikishi.
C'est pas le père. Ah oui, c'est le
père. C'est le père des Usos. Faites-le 30, c'est Adam Bomb.
Bon, là, il élimine les deux.
Oui.
Lex Luger, Bret Hart gagne. Pire finish de Rumble ever.
Ben, en fait, les deux sont tombés.
En même temps,
Les quatre derniers, là, les quatre derniers, c'était HBK, Bret Hart, Lex Luger et Fatou. Je comprends pas pourquoi Fatou est resté jusqu'à la fin.
Mais il est rentré tard.
Et là, ils ont fait quelque chose comme quoi, ils font un ils whip HBK et Fatou chacun de leurs bords. L'autre se penche et là, HBK et Fatou comme tombent à l'extérieur du ring. Il reste juste Bret et Lex Luger. Et là, ils font un finish où ce que les deux sont proches des cartes. câble 100 voix par-dessus. Et Brett expliquait dans son livre que c'était prévu comme ça parce qu'il savait pas trop encore qui envoyait à WrestleMania. Puis on dit, bon, on va faire ça, puis tu sais, on va travailler autour de ça. Et c'est Lex Luger parce qu'il fallait vraiment qu'il tombe simultanément ou en tout cas le plus proche possible. Et là, Brett disait que c'était Lex Luger qui avait tout contrôlé, la manœuvre, puis pour vrai, il disait, hey, une chance, parce qu'il a bien fait ça, puis tu sais, je l'ai laissé gérer, puis il a vraiment, on est vraiment bien tombé.
Quelques stats. Diesel, 7 éliminations. Ouais. Billy Gunn est resté le moins longtemps avec 14 secondes. Et Bam Bam Bigelow le plus longtemps avec 30 minutes et 12 secondes.
Attends une minute, j'ai d'autres stats, moi, ben, d'autres stats, d'autres commentaires.
On se dépêche, moi, après ça, j'ai votre quiz.
Moi, j'ai bien aimé aussi les rivalités qui ont été là-dedans. HBK, Marty Jannetty. Ouais. Dès que Jannetty est rentré,
le brawl,
le hockey fight, c'était vraiment, vraiment cool. Il y a eu des rivalités qui sont sorties du Rumble. Bigelow et Dunk. Ouais. Bigelow, je pense, a éliminé Dunk. Moi, en tout cas, il y a eu une rivalité jusqu'à WrestleMania avec ça. Crush et Randy Savage également, ils ont eu une rivalité qui a amené jusqu'à WrestleMania. Mania. Et puis, 9 lutteurs ou personnages du Royal Rumble sont décédés depuis Bam Bam Bigelow, Luna, Owen Hart, Yokozuna, Mr. Fuji, Paul Bearer, Randy Savage, Crush et Mabel.
Bon, là, je vous avais promis...
Hey, le match, Dave Meltzer a donné comme étoile 2.5. J'ai adoré le chronomètre. Il y avait le chronomètre, c'était marqué Casio.
Ah, j'ai même pas vu.
Ah, c'était ça m'a rappelé les années 80.
Bon, là, j'ai fait un quiz pour Fred et Pat.
Oui.
OK? Puis vous pouvez jouer à la maison.
Oui.
Ce qui s'est passé en 1994. Let's go, rapidement. Après ça, on a fini, là. Vous avez assez d'extra, là. OK. Le top film en 1994.
En 94, Braveheart.
Philadelphia avec Tom Hanks et Denzel Washington.
Oui.
Tu peux jouer aussi, Fred, là. Plus gros, la toune de 1994.
Ah, c'était pas Bryan Adams?
Yes!
Yes! La toune,
All for Love.
All for Love.
Chanson populaire de l'année à la disque au Québec.
En 94?
Ouais.
Oh boy, ça devait être une toune. C'était pas Céline, hein?
Non.
Non, non. Toune des vilains pingouins?
Encore et encore de Laurent Jalbert.
Oh, wow!
1994, qui était le backup de Patrick Roy?
Le backup de Patrick Roy, 94, ça, c'est l'année après la Coupe, dont c'était encore André Racicot.
Ron Tognat.
Oh, Ron Tognat.
Champion poids lourd de boxe en 1994, lors du Royal Rumble, en fait.
Champion Evander Holyfield?
Josh Foreman.
Ah, OK.
Là, j'espère que vous jouez à la maison. Moi, j'ai eu du fun à faire ça. Deux dernières questions. Qui était le champion WCW janvier 1994 lors du Royal Rumble?
Oh, boy. C'était Ric Flair.
Hey, you go, baby! Ouais. Bravo! Ouais. Et qui était le champion ECW en 1994 lors du Royal Rumble?
Oh, boy. Ça, c'est plus difficile. Shane Douglas?
Terry Funk.
C'est mon deuxième choix. Je ne me rappelle plus quand Terry l'avait gagné. Hey, note finale du Royal Rumble 94 pour toi?
Oh, le show complet, je te dirais, juste à cause de Owen, 6 sur 10.
6 sur 10.
Juste à cause d'Owen.
Wrestling Observer Newsletter, à ce moment-là, prenait les appels, prenait les fax et tout ça pour savoir. Il y avait eu 29% qui avaient fait un thumbs up pour le show. 63% un thumbs down, un pouce en bas, et 8 qui étaient dans le milieu. Donc, ça n'a pas été le meilleur.
C'est quoi ta note?
Je te dirais un gros 5 sur 10.
OK.
Pas bien, bien.
Moi, parce que j'ai vraiment aimé Owen. C'est bien la seule.
Puis je te dirais, la nostalgie embarque peut-être là-dedans.
Ouais, peut-être.
Hey, c'était vraiment le fun, ça, Kevin
Raphaël.
C'est
vraiment le fun, on l'a refait.
Les antipodes extra. Envoyez-nous sur nos réseaux sociaux @PatLaprade, @KevinRaphaël21 des idées de show qu'on peut écouter, qu'on peut vous parler en quoi 20 minutes, une demi-heure, comme on vient de le faire là. N'hésitez pas, Twitter, Instagram, sur Facebook, envoyez-nous vos demandes et suivez-nous, bien évidemment, les antipodes, le show régulier à chaque semaine sur Cube, Stitcher, Apple Music, Google Play, Spotify. Donnez-nous 5 étoiles.
5 Star Frog Splash.
Merci d'avoir été là pour les antipodes extra et on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.
La nouvelle toune de Fred
est vraiment bonne.